Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, sixième cassette, première face, page 132. Puis la bataille cessa. Les éléments se calmèrent. Les lueurs et les coups de tonnerre diminuèrent d'intensité. Petit à petit, le temps redevenait calme. La paix reprenait ses droits. Encore tout tremblant, les trois pirates regagnèrent leur camp. Et là, ce qu'ils virent les fit remercier Dieu. En leur absence, le grand sycomore à l'abri duquel ils avaient dormi depuis leur arrivée était en miettes. Il avait été frappé par la foudre. Dans le camp, tout était détrempé. Le foyer était éteint. Avec l'insouciance de leur âge, les enfants n'avaient pris aucune précaution contre la pluie. C'était un désastre. Leurs vêtements ruisselaient et ils mouraient de froid. À force de rechercher, ils découvrirent que sous le gros tronc qu'ils avaient choisi pour abriter leur foyer, là où le feu avait ménagé une sorte de voûte, un espace large comme la main était resté sec. Quelques rares braises couvaient encore sous la cendre. Patiemment, à l'aide de brindilles et d'écorces prélevées sur la partie inférieure des troncs abrités, ils réussirent à faire reprendre le feu. Alors ils entassèrent du bois mort et firent un immense brasier qui contribua puissamment à leur remonter le moral. Ils firent sécher ce qu'il leur restait de jambon, se restaurèrent, puis s'assirent et passèrent le reste de la nuit à causer, car il n'était pas question de trouver où que ce fût un endroit sec pour dormir. Au matin, les rayons de soleil pénétrèrent jusqu'à eux. Tout engourdis de sommeil, ils s'allongèrent à découvert près du banc de sable et s'endormirent. La grande chaleur les réveilla et ils préparèrent leur déjeuner. Après le repas, ils se sentirent raides et courbattus. Une fois de plus, la nostalgie les envahit. Tom s'en aperçut et s'efforça d'égayer ses camarades du mieux qu'il put. Mais ils n'avaient envie ni de jouer aux billes, ni de faire les clowns, ni de nager. Alors, il leur rappela le secret qu'il leur avait confié et réussit à les dérider. Il en profita pour les intéresser à un nouveau plan. Cesser un instant d'être des pirates et, pour changer, devenir des Indiens. Cette idée leur plut. En un instant, ils se déshabillèrent et se tracèrent avec de la boue des zébrures sur tout le corps. S'étant ainsi promus au rang de chef, ils se précipitèrent à travers bois pour effectuer l'attaque d'un campement de visages pâles. Puis, jouant le rôle de tribus ennemies, ils se ruèrent les uns contre les autres avec des cris de guerre épouvantables, s'entretuèrent et se scalpèrent mutuellement des centaines de fois. Cette journée de carnage leur laissa un excellent souvenir. Vers l'heure du repas du soir, ils se rassemblèrent dans le camp, affamés et heureux. Mais là, une difficulté se présentait. Entre Indiens ennemis qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas rompre le pain de l'hospitalité sans d'abord faire la paix. Mais pas moyen de faire la paix sans fumer le calumet de la paix. Pas moyen de s'en tirer autrement. Deux des sauvages auraient bien voulu être restés pirates. Quoi qu'il en soit, il fallait y passer. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils demandèrent le calumet et tirèrent une bouffée chacun leur tour, suivant le rite consacré. Après quoi, ils trouvèrent que l'état de sauvage ne leur réussissait pas si mal, car ils avaient appris quelque chose. Ils avaient découvert que maintenant, il leur était possible de fumer un peu sans éprouver le besoin d'aller à la recherche d'un canif égaré. Ils ne furent pas assez incommodés pour être sérieusement mal à l'aise. Il ne s'agissait pas de manquer de courage. Après le souper, ils s'exercèrent prudemment et parvinrent à s'en tirer sans incidence fâcheux. Ils étaient plus fiers de leur nouvel exploit qu'ils ne l'auraient été de scalper et d'écorcher les Sioux des six tribus. Laissons-les fumer, bavarder et fanfaronner. Nous n'avons plus besoin d'eux pour l'instant. Chapitre 17. Coup de théâtre. En ce samedi après-midi, personne dans le village ne manifestait aucune gaieté. Quant à la famille Harper et à celle de Tante Polly, c'est en pleurant et en sanglotant qu'elles préparaient leurs vêtements de deuil. Dans le village régnait une tranquillité inaccoutumée. Les villageois, les rapsans, vaquaient à leurs affaires. Ils parlaient peu et soupiraient beaucoup. Les enfants paraissaient redouter le congé dominical. Ils renoncèrent à leurs jeux habituels. Mélancolique, Becky Thatcher errait dans l'école déserte. Rien ne pouvait la consoler. Si seulement j'avais encore son anneau, mais je n'ai même pas un souvenir de lui. Elle réprima un sanglot. Elle s'arrêta et songea. C'est ici que cela s'est passé. Si c'était à refaire, je ne dirais plus ce que j'ai dit. Pas pour tout l'or du monde. Mais maintenant, c'est fini. Je ne le reverrai jamais. Jamais plus. Cette pensée lui déchira le cœur. Elle sortit. De grosses larmes lui coulaient le long des joues. Passa un groupe d'écoliers, garçons et filles, camarades de jeu de Tom et de Joe. Ils s'arrêtèrent, regardèrent par-dessus la clôture, rappelèrent, avec une déférente componction, qu'ici Tom avait fait ceci ou cela, la dernière fois qu'il l'avait vu, que Joe avait dit ceci ou cela, présage d'un triste dénouement, comme il était aisé de le voir maintenant. Et chacun des beaux parleurs montrait l'endroit exact où les deux enfants disparus se trouvaient au moment précis auquel il faisait allusion en ajoutant des commentaires de ce genre. Et moi, j'étais là, juste où je suis maintenant. Et il était là, juste à l'endroit où tu es. Je n'étais pas plus loin de lui que ça, et il a souri comme ça. Et alors, j'ai senti quelque chose qui me parcourait de la tête aux pieds. Cela fait une impression très déplaisante. Et sur le moment, je n'ai pas eu idée de ce que cela voulait dire, évidemment. Mais maintenant, je comprends. Ils se disputèrent pour savoir qui avait échangé les dernières paroles avec les disparus. Les témoignages étaient plus ou moins fantaisistes. Ceux qui réussirent à prouver que c'était eux firent aussitôt figure de personnages importants et devinrent l'objet de la jalousie des autres. Un pauvre garçon, qui n'avait aucun titre à invoquer, ne trouva pour se mettre en valeur rien de mieux à dire que « Et puis moi, une fois, eh ben, Tom m'a flanqué une rossée. » Comme c'était là une distinction dont la plupart de ses camarades pouvaient se prévaloir, le vantard en fut pour ses frais. Le groupe s'éloigna, célébrant à voix basse les hauts faits des héros défunts. Le lendemain, après l'école du dimanche, le carillon qui de coutume appelait les fidèles au service se mua en un glas funèbre. L'air était calme, et le triste son des cloches s'harmonisait avec le silence de la petite ville. Les villageois arrivèrent l'un après l'autre. Ils s'arrêtaient un moment sous le porche pour échanger leurs impressions sur le triste événement. À l'intérieur de l'église, pas un chuchotement. Rien ne troublait le silence. Rien que le bruissement funèbre des robes de deuil au fur et à mesure que les femmes se rendaient à leurs places respectives. Jamais la petite chapelle n'avait contenu tant de monde. quand la tante Polly fit son entrée, suivie de Sid et de Marie, ainsi que de la famille Harper. L'assistante tout entière, y compris le pasteur, se leva avec déférence et attendit debout que ces dames se fussent assises au premier rang. Il y eut un moment de silence, interrompu par quelques sanglots étouffés. Puis le pasteur étendit les mains et commença à prier. Après le chant d'une hymne approprié, le pasteur prit comme texte de son sermon « Je suis la résurrection et la vie ». Il parla en termes tellement touchants des qualités de ceux dont on déplorait la mort prématurée, de leur affabilité, de la séduction de leur manière, des espoirs que l'on pouvait fonder sur eux, que tout en éprouvant un serrement de cœur à la pensée qu'ils avaient pu ne pas les apprécier à leur juste valeur, chacun des assistants se demandait comment il avait pu se faire qu'il n'ait jusqu'alors eu Dieu que pour leurs défauts et leurs imperfections. Il relata sur la vie des disparus tant d'incidents qui mettaient en relief la bonté, la générosité de leur nature, que les auditeurs attendris ne comprenaient plus comment d'aussi angéliques créatures avaient pu si souvent leur faire l'effet de franches petites canailles auxquelles une sévère correction aurait fait le plus grand bien. L'assistance était de plus en plus émue. Le pasteur était de plus en plus lyrique, tant et si bien que tous les fidèles en pleurs firent chorus avec les familles en deuil et que le pasteur lui-même donna libre cours à ses sentiments et fondit en larmes en pleine chair. Tout à coup, il y eut dans la tribune un léger bruit auquel, tout d'abord, personne ne prit garde. Un instant plus tard, la porte de l'église grinça. Le pasteur releva la tête, regarda au-dessus de son mouchoir à travers ses larmes et tout à coup resta immobile, comme changé en statue. Quelqu'un se retourna pour voir ce qui attirait son attention. Une autre personne en fit autant, et bientôt, tous les fidèles, debout, pétrifiés, virent s'avancer au milieu de la nef les trois garçons que l'on croyait morts. Tom, suivi de Joe et de Huck, ce dernier plus en haillons que jamais, et qui ne savait plus où se mettre. Dans le but d'entendre leur propre oraison funèbre, les trois pirates s'étaient cachés dans la tribune, alors inoccupés. Tante Polly, Marie et les Harper se jetèrent au cou des enfants retrouvés, les couvrirent de baisers et se confondirent en actions de grâce, tandis que le pauvre Huck, penaud, mal à son aise, cherchait à se dissimuler au regard malveillant braqué sur lui. Il hésitait, prêt à rebrousser chemin, quand Tom lui coupa la retraite. « Tante Polly, dit-il, ce n'est pas juste. Il faut que Huck ait quelqu'un qui soit content de le revoir. »«
Mais je suis contente, dit Tante Polly. Tout le monde est content, très content de le revoir, le pauvre. »
Les démonstrations que la Tante Polly lui prodigua de son affection ne faisaient qu'aggraver la gêne du malheureux enfant. Tout à coup, d'une voix qui faisait trembler les vitres, le pasteur entonna le premier vers d'un vieux cantique. « Gloire au Seigneur dont les bienfaits !» qu'il accompagna de cette recommandation. « Chantez et mettez-y toute votre ardeur !» Les fidèles s'exécutèrent, et branlant jusqu'aux poutres de la toiture, un vibrant cantique monta vers le ciel. Pendant ce temps, sous les regards d'envie de ses camarades, Tom Sawyer, rayonnant, convenait en lui-même que c'était le plus beau jour de sa vie. Et à la sortie de l'église, les assistants que Tom avait mystifiés déclarèrent qu'ils consentiraient volontiers à être encore une fois les victimes de ces machinations, si cela pouvait leur valoir d'entendre chanter encore une fois le même cantique d'aussi magistrale façon. Ce jour-là, selon l'humeur de sa tante, Tom fut plus embrassé et reçut plus de coups de dés sur la tête que cela n'eût été jamais arrivé au cours d'une année entière. Et il eût été fort en peine de décider ce qui, des coups ou des caresses, traduisait le mieux l'affection de sa tante pour lui et sa reconnaissance envers le Seigneur. Chapitre 18. Le rêve. C'était cela le grand secret, le plan génial de Tom. Revenir en compagnie de ses confrères en piraterie, juste à temps pour assister à leurs propres funérailles. Le samedi, à la tombée de la nuit, ayant traversé le fleuve sur un tronc d'arbre, ils avaient abordé à 8 ou 10 kilomètres en aval du village. Ils avaient dormi jusqu'à l'aube dans les bois environnants, s'étaient faufilés jusqu'à l'église par de petites rues désertes, et une fois dans la tribune, s'étaient de nouveau laissés aller au sommeil, au milieu d'un amas de bancs hors d'usage. Lundi matin, au petit déjeuner, tante Polly et Marie comblèrent Tom de gâterie. La conversation fut exceptionnellement animée. La tante interpella son neveu.
« Je ne nie pas, Tom, que ce n'ait été une excellente plaisanterie de laisser les gens se morfondre de chagrin pendant presque toute une semaine. Mais tout de même, ce n'était pas très gentil de ta part de me faire souffrir de la sorte. Puisqu'il vous a été possible de traverser le fleuve sur un tronc d'arbre pour venir à votre enterrement, tu aurais bien pu venir me faire savoir d'une façon ou d'une autre que tu n'étais pas mort et qu'il ne s'agissait que d'une équipée. »
« Oui, cela tu aurais pu le faire, dit Marie, et tel que je te connais, je crois que tu l'aurais fait si tu y avais pensé. »«
Aurais-tu fait cela ?» interrogea anxieusement tante Polly. « Dis-moi si tu y avais pensé. L'aurais-tu fait ?»«
Ma foi, dit Tom, j'en sais trop rien. Cela aurait tout gâché. »
« J'aurais espéré que tu m'aimais assez pour cela, dit la tante, d'une voix attristée qui impressionna Tom. « Cela adoucirait un peu ma peine de savoir que tu y avais pensé, bien que tu ne l'aies pas fait. »«
Ma tante, plaida Marie, il ne faut pas lui en vouloir. Il est comme ça, il ne pense à rien. »«
Ce n'est pas une excuse. Sid y aurait pensé et il l'aurait fait, lui. »« Un jour, quand il sera trop tard, Tom, tu verras. » Tu regretteras de ne pas avoir été plus gentil pour moi, alors que cela t'aurait coûté si peu de peine.
Mais ma tante, vous savez bien que je vous aime bien, dit Tom.
Je le saurais mieux si tes actes étaient en rapport avec tes paroles.
Je regrette de ne pas y avoir pensé, dit Tom d'un air contrit. En tout cas, j'ai rêvé de vous. C'est tout de même quelque chose, ça.
Oh, quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Les chats rêvent eux aussi. Mais enfin, c'est mieux que rien. Et qu'est-ce que tu as rêvé?
Eh bien, dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai rêvé que vous étiez assise là, près du lit. Sid était assis sur le coffre à bois et Marie à côté de lui.
En effet, c'est comme cela que nous nous installons tous les soirs. Je me plais à reconnaître qu'au moins en cela, tes rêves correspondent à la réalité.
Et puis, j'ai rêvé que la mère de Joe Harper était ici.
Mais c'est vrai qu'elle y était. Qu'est-ce que tu as encore rêvé?
Beaucoup de choses, mais je ne me rappelle plus très bien.
Essaye de te rappeler.
Il me semble qu'il y avait du vent. Le vent a soufflé.
En effet, Tom, le vent a soufflé quelque chose.
Tom se gratta l'oreille comme s'il cherchait. Ça y est, j'y suis. Le vent a soufflé la chandelle.
Mon Dieu, mais c'est vrai. Continue, Tom.
Et il me semble que vous avez dit, je crois que cette porte...
Va, continue.
Attendez, attendez. Oui, vous avez dit, je crois que cette porte est ouverte.
Aussi vrai que je suis assise dans ce fauteuil, j'ai dit cela, n'est-ce pas, Marie? Et après, Tom?
Et puis, il me semble que vous avez envoyé Sid.
Oui, Tom, oui, je lui ai fait faire quelque chose, mais quoi?
Vous lui avez fait fermer la porte.
Ça, c'est extraordinaire. Jamais je n'ai rien entendu pareil. Qu'on ne vienne plus me dire qu'il n'y a rien dit. qu'il n'y a rien dans les rêves. D'ici une heure, je vais tout raconter cela à Madame Harper. Elle essaiera de s'en tirer en disant que ce sont encore des superstitions. Continue, Tom.
Oh, maintenant c'est très clair en moi, dit Tom. Après, vous avez dit que je n'étais pas un mauvais garçon, mais un espiègle, un étourdi, et que je n'avais pas plus de cervelle que... Je crois que c'était un cheval échappé, quelque chose comme ça.
Bonté divine, mais continue, Tom.
Et alors, vous vous êtes mis à pleurer.
Ça, oui. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois, et alors ?
Alors, Madame Harper a pleuré aussi. Elle a dit que Joe, c'était pareil, et qu'elle regrettait de l'avoir fouetté pour avoir pris une crème qu'elle avait jetée.
Tom, il n'y a pas à dire. Les esprits s'en sont mêlés. C'est prodigieux. Et alors ?
Alors, si Daddy, il a dit « Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit », fit Sid. « Si, si, tu as parlé, » dit Marie.
« Taisez-vous, laissez parler Tom. Tom, qu'est-ce qu'il a dit, Sid ?»
Il a dit, je crois qu'il a dit qu'il espérait que je n'étais pas trop mal là où j'étais, mais que si j'avais été plus sage...
Non, mais c'est cela qu'il a dit, mot pour mot.
Et vous l'avez fait taire.
C'est ma foi vrai. Oh, il devait y avoir, il y avait là sûrement un ange.
Et Madame Harper a raconté que Joe lui avait fait peur en lui faisant partir un pétard sous le nez. Et vous, vous avez raconté l'histoire de Pierrot et de l'élixir.
Aussi vrai que je suis en vie.
Et puis, il a été question de recherches faites sur le fleuve pour nous retrouver. Et puis, du service funèbre de dimanche. Et puis, Madame Harper vous a embrassé. Elle a pleuré et elle est partie.
C'est miraculeux. C'est exactement ce qui est arrivé. Aussi vrai que je suis assis sur ce coussin, Tom. Tom, si tu avais tout vu, tu ne parlerais pas autrement. Et alors ?
Alors, je crois que vous avez prié pour moi. C'est en moi comme si je vous avais vu, comme si j'avais entendu tout ce que vous disiez. Et puis, vous vous êtes couché et j'ai été tellement ému que j'ai pris un morceau d'écorce de sycomore et j'ai écrit dessus « Nous ne sommes pas morts, nous sommes seulement devenus des pirates. » Et je l'ai déposé sur la table près de la chandelle. Et vous aviez l'air si brave dans votre sommeil. Je crois que je me suis penché sur vous et que je vous ai embrassé.
C'est vrai ça, Tom. Oh, si tu as fait cela, je te pardonne tout.
S'écria Tante Polly qui prit Tom dans ses bras et l'embrassa avec tant d'affection que le petit bougre en fut tout bourrelé de remords.
C'était vraiment très gentil de sa part, même si ce n'était qu'en rêve,
murmura Sid comme se parlant à lui-même.
Tais-toi, Sid, dit Tante Polly. Dans un rêve, on agit exactement de la même façon que si on était tout éveillé. Tiens, Tom, voilà une belle pomme que j'avais mise de côté pour toi, si jamais on te retrouvait. Et maintenant, va à l'école. Je remercie Dieu, notre Père à tous, Dieu dont l'indulgence et la miséricorde vont à ceux qui croient en lui et qui ont foi en sa parole, de t'avoir rendu à moi quoi que je sois indigne de ses bienfaits, je le sais. Mais s'il n'y avait que ceux qui en sont dignes pour mériter ses bénédictions et recevoir l'aide de sa grâce quand ils en ont besoin, il y aurait bien peu de monde pour supporter allègrement les peines d'ici-bas et être admis dans son paradis quand l'heure sonnera d'y entrer. Allez, Sid, Marie, Tom, en route. Il y a déjà longtemps que vous devriez être partis.
Les enfants allèrent à l'école et la tante Polly alla rendre visite à Madame Harper pour essayer de venir à bout de son scepticisme en lui racontant le merveilleux rêve de son neveu. Sid jugea préférable de garder pour lui la réflexion qu'il fit en quittant la maison. Un rêve aussi long que ça, sans qu'il y ait la moindre erreur, ça n'est pas naturel. À l'école, Tom était devenu un héros. Il ne se donnait plus des airs de casseur d'assiettes. Il avait la démarche digne et fière d'un pirate qui sait que tous les yeux sont braqués sur lui. Il n'avait l'air ni de remarquer les regards, ni d'entendre les conversations sur son passage, mais en réalité, santé. Il buvait du petit lait. Les camarades plus jeunes marchaient sur ses talons, tout fiers d'être vus avec lui, comme s'ils avaient escorté le tambour-major précédant un défilé ou l'éléphant entrant dans le village à la tête de sa ménagerie. Les garçons de son âge faisaient semblant de ne pas avoir remarqué son absence. En réalité, ils en pâlissaient de jalousie. Ils auraient fait n'importe quoi pour avoir ce teint hâlé, cette peau bronzée par le soleil, et surtout, cette célébrité. Tom, lui, pour un empire, n'aurait renoncé ni à l'une, ni à l'autre. Toute l'école manifestait pour Tom et pour Joe tant d'admiration, les regards ne leur laissaient pas ignorer, que les deux héros ne tardèrent pas à devenir purement insupportables. Ils ne cessaient de raconter à leurs auditoires complaisants des aventures qui n'avaient jamais de fin, renouvelées qu'elles étaient sans cesse par une imagination infatigable. Quand par-dessus le marché, ils tiraient leur pipe de leur poche et se mettaient à fumer, l'enthousiasme était à son comble. Fin de la première face de la sixième cassette, Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 145.